Les deux orphelines, quatrième partie, chapitre 23. Les rendez-vous continuaient entre les deux amies, et Marianne faisait naître maintenant l'occasion de parler de celui qu'elle n'appelait plus que l'enfant de l'atelier. Il lui semblait que c'était resserré encore le lien sympathique qui l'unissait au père de l'orphelin. Dans son impatience de revoir son enfant et de réparer sa faute envers lui, Charles Douvel ne parlait de rien moins que de profiter du départ du premier navire qui ferait voile pour la France afin de se rendre chez Madame Poitevin. Mais la première fois qu'il avait fait part de son intention à la détenue, celle-ci laissa paraître un nuage de tristesse sur son front. « Vous me parlez d'union ? » soupira-t-elle. « Comment pourrait-elle se réaliser ? Ne faudrait-il pas pour cela vous expatrier à tout jamais, puisque je suis exilée de France et que je dois mourir ici ?» Puis baissant les yeux. « Oubliez-vous, mon ami, que je suis prisonnière et que ce n'est qu'à la générosité du gouverneur que je dois de ne pas partager le sort de mes compagnes qui, aux pénitenciers, sont soumises aux plus rudes travaux. Et puis, continua-t-elle avec tristesse, ne suis-je pas désignée pour accompagner Madame de Saulny dans son voyage de noces ? Charles Douvel, depuis plusieurs jours, avait mûrement réfléchi, et il déclara franchement ses intentions. « Mon ami, dit-il à la jeune femme, vous êtes exilée. Pourquoi ne m'exilerais-je pas aussi ? Puisque ce cruel exil est le seul obstacle qui s'oppose encore à notre union. Le seul ? Demanda Marianne en baissant les yeux. Le lieutenant eut un geste énergique. Et que m'importe ? S'exclama-t-il, que vous soyez condamné, puisqu'en ce moment vous subissez volontairement une peine dont vous aviez obtenu remise. Est-ce que je puis oublier que vous vous sacrifiez pour sauver Henriette Gérard ? Puis s'animant au fur et à mesure qu'il parlait. Non, continua-t-il, je ne me déshonorerai pas en vous donnant mon nom. Et s'il faut que nous nous séparions momentanément, car je veux aller chercher à Paris l'enfant de Madeleine, je reviendrai, je vous le jure. Marianne eut un tressaillement de joie. Ces paroles prononcées par le lieutenant étaient pour elle une nouvelle et suprême réhabilitation. Mais tout à coup, une pensée lui traversa l'esprit et vint y ramener le trouble. Elle se rappelait qu'elle ne se nommait plus Marianne Vautier, et que pour tout le monde, elle était bien réellement Henriette Gérard. Comment surmonter ce dernier obstacle ? Les deux amies durent remettre à plus tard la solution de ce problème. Marianne allait partir pour accompagner la marquise et Yvonne de Saulny. Au dernier moment, le gouverneur avait renoncé à faire partie de ce voyage de noces. Du reste, bien lui en prit, car 8 jours ne s'étaient pas écoulés qu'un matin, une salve d'artillerie annonçait l'arrivée d'un navire attendu de France pour remplacer le stationnaire. C'était un jour de fête pour tout le monde que celui que marquait l'arrivée de Français. C'était un peu de la patrie absente qu'on revoyait. Pour la circonstance, le lieutenant Charles Douvel avait revêtu son uniforme d'officier de marine. Il fut présenté au capitaine qui débarquait. La nouvelle de la perte du brick le Glorieux était parvenue au Havre, apportée par un navire anglais, lequel avait recueilli en mer une des embarcations du brick. Mais une surprise plus grande l'attendait dans la soirée lorsque le gouverneur lui remit le paquet de dépêches et de lettres reçues de France. Le lieutenant, en sa qualité de secrétaire, était chargé du classement des pièces administratives. « Eh bien, mon cher monsieur Douvel, lui dit le marquis, voici pour vous d'excellentes nouvelles. Je suis chargé de vous rapatrier, et vous pouvez prendre passage à bord du premier navire en partance pour l'Europe. » Il y eut un moment de silence que le marquis interrompit par ces mots. Je sais une personne qui, très probablement, ne se fera pas prier pour retourner en France, elle. Qui donc ? Demanda Douvel. Une détenue dont il est question dans une lettre que vous trouverez dans le paquet de correspondance. Le lieutenant se mit immédiatement à feuilleter lettres et dépêches. Au surplus, fit en riant le gouverneur, ne vous donnez pas tant de mal pour trouver cette lettre. Et il ajouta. Elle m'est adressée par le lieutenant général de police et concerne cette jeune couturière qui en ce moment accompagne en Louisiane la marquise et Madame de Saulny. « Ah ! » s'exclama Douvel qui devint subitement pâle. « C'est d'elle qu'il s'agit ?»« Le lieutenant de police m'annonce que la détenue Henriette Gérard a obtenu grâce pleine et entière et qu'elle doit être mise immédiatement en liberté. »« Elle ? Henriette, j'ai... » Le nom demeura inachevé sur les lèvres de M. Douvel. La surprise l'étranglait. « Libre !» fit-il, oubliant qu'il se trouvait en présence du marquis. « Libre ! Elle !» Mais déjà, il avait pu commander à son émotion. « C'est vrai, » fit-il en apaisant sa voix, « je trouvais le châtiment excessif. Aussi, allons-nous pouvoir, au retour du voyage de la marquise, annoncer cette bonne nouvelle à la Gracier. Elle n'en croira pas à ses oreilles. Qui sait, peut-être aura-t-elle le désir de rester dans notre colonie ?» Le lieutenant ne répondit pas. Mais en se retirant, l'ami de Marianne se livra aux plus heureuses réflexions. Le voyage de noces avait duré une quinzaine de jours. Au bout de ce temps, la marquise et les époux de Saulny rentrèrent à l'habitation. Lorsque Marianne apprit la nouvelle faveur dont elle était l'objet, elle ne put dissimuler la joie qu'elle en éprouvait. Elle entrevoyait enfin la possibilité d'un bonheur inespéré, son union avec Charles Douvel. Libre, elle reprenait ses droits dans la société. Le mariage, impossible à la Nouvelle-Orléans, pouvait se réaliser ailleurs, aux Antilles par exemple, où il n'était connu ni l'un ni l'autre. Il suffirait pour cela de se rendre à la Martinique, où Marianne pourrait sans inconvénient reprendre son nom. Les deux fiancés convinrent donc de se rendre à la Martinique aussitôt que possible. En attendant, on put se revoir chaque soir dans le jardin, après le coucher des domestiques de l'habitation. Cependant, un nuage assombrissait le bonheur de Marianne. Celle-ci, commentant le contenu de la lettre du lieutenant de police, laquelle Charles Douvel lui avait communiquée, se disait que puisqu'on la mettait en liberté, c'est qu'inévitablement le subterfuge qu'elle avait employé pour sauver Henriette avait dû être découvert. Dans ce cas, que s'était-il passé? Henriette n'était-elle pas retombée au pouvoir du terrible lieutenant de police qui, une première fois, l'avait fait enlever par ses agents et enfermer sans jugement à la Salpêtrière? Cette pensée troublait profondément Marianne, qui déjà voyait son dévouement demeurer stérile. Elle s'ouvrit de ses inquiétudes à Douvel, qui lui aussi n'augurait pas bien de cette mise en liberté dont bénéficiait Marianne. Il n'eut garde cependant de dévoiler son inquiétude à ce sujet. Il essaya au contraire de persuader à Marianne que sans doute le comte de Lignières avait reconnu son erreur et qu'il avait dû nécessairement revenir sur le compte de la jeune fille qu'il avait injustement poursuivie de sa colère et de sa vengeance. Marianne ne demandait pas mieux que de se laisser convaincre. Et c'est dans l'espérance que les deux orphelines étaient arrivées au terme de leurs infortunes que Marianne Vautier attendit l'occasion de s'embarquer pour la Martinique où le lieutenant Douvel l'avait précédée. En se séparant, les deux fiancés échangèrent un serment qui équivalait bien à la consécration par le prêtre de l'union projetée. L'officier avait enfin consenti à se rendre auprès de son oncle. Une existence nouvelle allait commencer pour lui et pour sa femme. Il se résignait à abandonner sa carrière. Dans ce but, avant de quitter la Nouvelle-Orléans, il avait adressé au ministre sa démission d'officier de la Marine royale.